Chapitre 13. Mais un océan ne me paraissait pas de trop entre les eaux de Black Rooks et votre serviteur. J'étais habillé quand on frappa discrètement à ma porte, et je me trouvais en face de Mrs. Tennyson en toilette de dîner, qui me faisait un signe. Je la suivis. Sa chambre était à quelques pas de là, juste au-dessus de celle de Lady Helena. Celle-ci m'attendait chez son amie avec impatience. Aussitôt qu'elle m'eut introduit, Mina disparut.
Rassurez-vous, lui dis-je, il est encore très agité, certes, et le cerveau rempli de sombres imaginations, mais il m'a tenu sur vous des propos pleins de respect et d'admiration.
L'affreuse hypocrite! Je ne puis entrer dans sa chambre sans être surveillé par Bobby, son hideux Little Page, sa petite fouine, et je trouve Patrick derrière toutes les portes. Mais laissons cela, parlez-moi de vous. Que vous a-t-il dit?
Il m'a dit qu'il avait fait venir pour certaines confidences. Je vous dirai lesquelles. Elles sont des plus redoutables, mais il m'a donné l'impression qu'il n'est au courant de rien. Elle haussa les épaules.
Il sait tout. Mais vous serez donc toujours un enfant, lui dit. Ce que vous appelez des confidences, c'était une épreuve. Puissiez-vous vous en être tiré à peu près convenablement? Et puis à quoi bon? Il est fixé, et ce qu'il y a de terrible, c'est que je ne sais pas ce qu'il nous prépare. Allons dîner.
Je me laissai conduire, de nouveau fort accablé. Ces dernières paroles et la façon dont il les avait prononcées me replongeaient dans un abîme de perplexité et d'effroi. Au dîner, Helena s'efforça de me montrer de la gaieté, ma parole. Son aspect funèbre avait disparu avec le retour à la vie de Sir Archibald. Mais si sa bouche se parait d'un magnifique et hautain sourire, ses yeux brûlaient d'une flamme noire et menaçante. Mais menaçante pour qui? Elle évitait de me regarder, de me frôler. Elle se montrait exquisément polie, et ce qui me causait une gêne insupportable. Ma détresse devant cet apparent abandon ne fit que croître.
Ce qu'il y a de terrible, c'est que je ne sais pas ce qu'il nous prépare.
Ah, c'est à cela qu'elle pensait, et moi aussi. Comment aurais-je cessé de penser à cela une seconde? Ce dont j'aurais voulu être sûr, c'est qu'elle ne pensait pas à se tirer de là toute seule. Elle m'avait bien dit, nous partirons ensemble. Moi, non seulement, je l'avais dit aussi, mais je l'avais juré. Et cependant, à un moment, j'avais pensé à fuir tout seul, et je l'aurais fait si j'avais pu. À moins d'être un professionnel du sauvetage, un héros à 3 rangées de médailles, chacun s'en tire comme il peut à travers la flamme, sans plus se préoccuper du voisin et même en l'écrasant. Revenons à la gaieté factice de Lady Scarlett, à son odieux badinage qui pour moi ne trompait même pas le laquais, et semblait particulièrement sans effet sur la correction très glacée ce soir d'Arthur. Le maître d'hôtel que Sir Archibald avait fait venir de son hôtel d'Édimbourg. Lady Helena eut le tort de demander en plaisantant si on avait réentendu le Bucci. Les 3 valets de pied parurent immédiatement changés en statue. Et le maître d'hôtel prononça, la lèvre sèche, Milady ignore sans doute ce que l'on raconte. Le Banshee ne cesse de se faire entendre depuis la nuit qui a précédé la maladie de sa seigneurie. Cette nuit-là, on a rendu visite à la Dame Verte. Helena ne put me cacher à moi qui commençais à la connaître, à sentir comme elle et aussi à pressentir comme elle,
Non, elle ne put me cacher la sorte de convulsion où chavira tout son être intérieur quand elle eut entendu cette phrase. On a rendu visite à la dame verte. Quand elle se fut ressaisie, quand il eut encore une fois redressé sa barque d'un coup de barre si dur que j'en voyais trembler son poignet fragile, elle questionna d'une voix sourde « Qui, oh ?»«
Ah, il faudrait le demander à Patrick, Milady. Patrick seul le sait exactement. Mais Patrick, qui est comme fou depuis, se refuse à toute confidence et préfère même des paroles incompréhensibles. »
Helena dit à Mrs. Tennyson « Mais c'est bien ce que je disais. La Banshee est en train de rendre fou Patrick, et tout le monde y passera. Pour peu que cela continue, ce château deviendra un asile d'aliénés. »
Mais enfin, m'exclamai-je, qu'est-ce que c'est que cette dame verte?
Mon ami, c'est une vieille légende, comme il y en a 1000 en Écosse. Chaque château a sa légende, sa chambre mystérieuse, sa dame verte. Il paraît que c'est précisément la couleur de la Banshee. Pour votre instruction, voici l'histoire de la dame verte des Blackwoods. Depuis plusieurs générations, dans les caveaux de Blackwoods, il y a une chambre que l'on croit toujours hantée. Le soir, les fenêtres s'éclairent, et tout semble indiquer qu'une existence humaine y est confinée dans une réclusion volontaire ou forcée. Et il est exact que lorsqu'un invité s'arrête, avec trop d'obstination, en face des fenêtres de la chambre secrète que l'on aperçoit en se penchant au-dessus des douves, les seigneurs propriétaires, depuis plusieurs générations, le prennent à part et lui demandent comme un service de ne plus s'occuper de cette partie du château. Ainsi ai-je vu faire à Sir Archibald. Inutile d'ajouter, n'est-ce pas, que la curiosité des autres est mise à une rude épreuve et que l'on a tenté l'impossible pour percer le mystère. Nul ne pénètre jamais dans cette chambre que le domestique qui en a la garde. Et ce fut un domestique de la même famille, depuis des générations jusqu'à Patrick, qui fut installé là par le père de Sir Archibald, Sir Edward Scarlett. J'ai questionné Sir Archibald, qui m'a répondu: il ne faut jamais déranger le Banshee, et cela porte malheur même de parler d'elle. Qu'en conclure de plus que cette cellule a servi jadis de prison à quelque malheureuse épouse d'un chef de clan, ou même d'un Gregor? Mais je crois que la légende est plus vieille que Rob Roy, et que la malheureuse a expié là quelque crime réel ou imaginaire contre son seigneur et époux. À sa mort, la cellule a été certainement transformée en chapelle et le gardien n'est là que pour entretenir le feu des cierges. Cette pitié pour les victimes de l'orgueil écossais cruellement traitées de leur vivant est tout à fait dans les mœurs. On en pourrait citer 100 exemples. Naturellement, on dit que l'âme de la dame verte habite toujours la cellule. C'est ce fantôme que les paysans ont appelé Jenny la fileuse. Inutile de dire qu'elle souffre et qu'elle se lamente, et que ses gémissements paraissent percer les murs quand le malheur plane sur la maison. J'ai entendu dire, prononça Mrs. Tennyson, je suis toujours étonné d'entendre sa voix enfantine, d'une douceur de souffle et si rare, que dans cette chambre inaccessible vivait un être difforme, informe plutôt. On a même raconté que ce monstre est une tête de grenouille. Voilà nos Highlands, conclut Helena en se tournant vers moi. Pays des légendes, du glen et des bruyères et d'une gaieté folle. Darling, vous en savez aussi long que moi. Allez, parlons maintenant d'autre chose.
Elle mentait. J'en savais moins long qu'elle, mais la nuit ne devait pas se passer sans que je fusse au courant de tout, de tout.
J'ai dit l'indifférence de son attitude. Elle ne s'en départit point pendant toute la soirée. Aussi, quand je me retrouvais dans ma chambre, j'eus une impression de solitude et d'abandon qui m'étreignit affreusement. J'aurais été déjà enfermé dans un cachot des Black Rooks que je ne me serais pas vu plus misérable. Mais comment partir? Je ne pouvais rien sans Elena. Comment franchir ces murs, toutes ces portes gardées? Comment me guider dans ces escaliers, dans ces couloirs étroits dont l'enchevêtrement semblait avoir été créé pour mieux vous perdre? Et après, comment traverser ce pays que je ne connaissais pas? Et si je m'enfuyais ainsi comme un voleur, quel aveu! Mon désastre était parfait, de quelque côté que j'essayasse de l'envisager. Je n'espérais plus qu'une chose. Je vous ai dit que je commençais à mieux connaître Lady Helena. J'avais le souvenir qu'elle m'apparaissait jamais si proche de moi que lorsqu'elle semblait s'en être retirée, pour une raison ou pour une autre, soit par caprice, soit par prudence. Au fond de mon abîme, c'était la dernière lueur, le dernier feu clignotant d'une lanterne qui s'éteignait au fur et à mesure que s'écoulaient ces minutes atroces. Et il arriva enfin que l'on frappa légèrement à ma porte. C'était encore Mrs. Tennyson. De nouveau, je la suivis. Je croyais trouver Elena dans sa chambre. Mais elle n'y était point. Et Mina repoussait le verrou de sa porte d'un geste précis et nullement précipité. Elle ajoutait à ma peur, cette petite mécanique. Qu'allait-elle faire de moi? Pourquoi Elena n'était-elle pas là? Mina ne me regardait même pas. Elle s'en fut à un paravent qu'elle déplaça, souleva une petite trappe dans le plancher et me fit un signe. Il y avait là un escalier tournant en bois, léger comme une échelle. J'avais compris. Je descendais chez Elena. Je tremblais d'une joie dans laquelle l'espérance de la volupté n'était pour rien, je vous assure. La trappe s'était refermée au-dessus de ma tête. Et moi, je descendais dans une ombre, au fond de laquelle était Elena, car son parfum, qui n'avait fait depuis mon retour que m'effleurer, comme un lointain souvenir de nos joies abolies, me reprenait, m'assiégeait soudain avec une violence brutale. Cependant, j'étais au centre d'une telle tragédie que ce ne fut point l'amant qui se jeta sur son sein nu, mais un enfant pitoyable qui se mit à gémir comme dans le giron de sa mère. « Elena, Elena, dans quelle horreur m'avez-vous entraînée ?» Elle me caressa avec une douceur dont je la croyais incapable, essuyant mes larmes, me couvrant de baisers comme le plus tendre des épouses, me berçant dans ses bras auxquels je m'accrochais comme à mon dernier refuge. « Ne pleure pas, mon amour. Don't cry, my love. J'ai tout préparé. Oui, une horreur, et plus encore que tu ne peux croire, Rudy. Une horreur au fond de laquelle je suis avec toi, mais nous nous sortirons ensemble. Ah, cela, je te le jure. Mais quand? Demain soir. Pas plus tard que demain soir. Oh oui, le plus tôt possible, Elena. Tout ce que vous m'avez dit. Oh, et quand je pense aussi à ce que m'a dit cet homme, votre mari, Elena, je sais qu'un épouvantable danger nous menace. Hélas, je dis, vous voyez bien, hein, vous voyez bien. Savez-vous ce qu'il m'a dit? Il m'a dit qu'on voulu l'empoisonner. Elle se redressa égarée. Oh, j'en étais sûr qu'il devait penser cela. Et qu'a-t-il dit exactement, Rudy? Rappelle-toi bien ses paroles. Ben, il a dit on. Oui, on. Mais moi, je suis dans ce rond. Je sais comment il me regarde maintenant. Je suis dans ce rond. C'est terrible, dit. Car il se peut qu'en effet, on ait voulu l'empoisonner. Moi-même, je l'ai cru. Je l'ai cru. Tu comprends que Durin en a assez d'attendre. Et puis il sait aussi maintenant pourquoi l'autre est venu le chercher là-bas, à Paris. Il devine ce qu'il attend ici. Ah, quand Archibald a eu sa crise, sa grande crise, j'ai cru que ça y était, que l'autre était passé par là. J'ai cru qu'il avait empoisonné Archibald pour m'épouser. Horreur, horreur. J'étais sacrifié et que je voulais voulu sous nom. Oh bien non, pas ça, pas ça. Pas cette abomination, pas cette saleté. Pas de crime au bout prend un lacet. Mais Durin est devenu un monstre. Moi qui l'ai tant aimé. Quand il était un jeune et brave et gai chevalier, et il va falloir m'allier à ce hideux personnage après avoir fait ce mal. Ah, oh, Rudy, Rudy, tu m'as vu. Tu te disais, où est mon Elena, ma belle Elena? Je ne suis plus qu'un fantôme qui erre entre des tombeaux. Comprends-tu maintenant ma joie et ma défaillance quand ce Patrick est venu m'annoncer qu'Archibald était sauvé? Oh, Rudy, mes malheurs dépassent tout ce que l'on peut imaginer. J'en suis réduit à me réjouir du salut d'un homme que j'ai toujours détesté, que je hais, au moins autant que je hais Durin. Et maintenant, écoute, y a-t-il eu un empoisonnement? Ce n'est pas sûr. Mais ce qui est tout à fait sûr, c'est qu'il va y avoir empoisonnement. Empoisonnement ou autre chose, mais les jours d'Archibald sont comptés. Tu as vu la figure de Durin? Oui, oui, Elena, oui, je l'ai vue. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'épouvante. Tout m'épouvante ici, tout. Elle dit crime. Voilà ce qu'elle dit. Eh bien, il ne faut pas que nous soyons là à l'heure du crime. Do you understand? Ah, Elena, sauvons-nous. Pourquoi pas cette nuit même? Pour ton salut à toi, lui dis-je, j'ai bien pensé à tout, bientôt prévu. Du moins, je le crois. Il ne faut pas que tu aies l'air de fuir. Tu es un invité. Tu t'en iras comme un invité, et le plus naturellement du monde. C'est possible cela, Elena? C'est vraiment possible? Écoute, demain après-midi, tu recevras une dépêche de Paris te rappelant d'urgence là-bas. J'ai encore arrangé cela. Tu écriras alors un mot d'adieu à Sir Archibald qui repose. Tu laisses la dépêche qui fait foi de la nécessité où tu es de partir, et je te conduis moi-même en auto à Stirling où tu es censé prendre le train pour Londres. Et pourquoi ne prendrais-je pas le train? Mais parce que tu reviens avec moi. Je reviens avec toi au château? Oui, au château. L'important, comprends-tu, c'est que Maître Antonin Rose soit parti naturellement et qu'il ne soit plus au château quand il s'y passera ce que je vais te dire.
Je la laissais aller maintenant. J'agonisais littéralement sur son sein et elle continuait de me dorloter comme une pauvre petite chose.
Ne crains rien, baby mine. Ce qui reste à faire est peu de choses en vérité, et tu ne feras pas un pas sans que je sois à tes côtés. Tu comprends bien que nous ne pouvons pas partir sans argent. Comme fortune personnelle, je n'ai toujours que mes bijoux à moi, les bijoux qu'il m'a volés. Qui il ? Eh bien, Sir Archibald, of course. Mon collier, mes bijoux, il ne s'en sépare plus depuis la mort de Fatty. Il les a toujours sur lui. Et en ce moment, ils sont enfermés dans un petit sac de cuir qu'il a glissé sous son traversin. Il y a mis aussi autre chose, un grand papier, sur lequel il a écrit depuis 2 jours, on ne sait quoi, mais dont j'ai quelque idée tout de même. Cela pourrait bien être notre histoire à tous les trois. Une précaution qu'il a prise, s'il lui arrivait malheur, avant qu'il en ait terminé avec Durin, avec Lady Helena, et avec le petit chéri, darling, de Lady Helena. Un papier qu'il veut remettre lui-même au pasteur. Au pasteur Duke, tu sais, ce petit village qui grimpe comme un escalier au flanc des Black Roots. Le pasteur est en ce moment chez son frère à Édimbourg, mais on l'attend d'un moment à l'autre. Et Sir Archibald l'a fait savoir au personnage, au presbytère, qu'il est à se présenter au château dès son retour, 2 jours de nuit, et quelle que soit l'heure. Ici, on a l'ordre de l'introduire dans sa chambre aussitôt son arrivée au château, et de l'y laisser seul avec lui-même s'il dort. L'honnête clergyman attendra à son chevet le réveil de sa seigneurie. Et que fera sa seigneurie quand elle sera réveillée? Elle confiera le sac et tout ce qu'il y a dedans, mes bijoux, mon déshonneur et toute l'histoire de Mr. Flo et de Monsieur Prim et d'Antonin Rose. Tout cela, l'honnête clergyman. Voilà pourquoi, petit ami, j'emmène à Stirling maître Antonin Rose et le ramène à Black Rose, cet excellent pasteur. Chéri darling, vous serez très bien, pasteur, je vous assure. Oh, je ne me révoltais pas, je ne protestais pas. Je m'accrochais encore à elle comme un pauvre enfant auquel on demande un effort impossible pour son âge. Cette terrible femme trouvait que tout était simple, et elle m'accablait de travaux surhumains. Épargne-moi, Helena, épargne-moi, je n'en puis plus. Comment veux-tu que je prenne ce sac sous ce traversin? C'est impossible, c'est impossible. Et au premier mot que je prononcerai, Sir Archibald m'aura reconnu. Il me reconnaîtra même si je ne dis rien. Oh, pitié de moi. Mais tu n'auras rien à dire. Pas un mot à prononcer. Et Sir Archibald ne te reconnaîtra pas. Il dormira. Comprends donc que nous reviendrons à une heure où il dort. Il prend sa potion à des heures fixes. Alors il donne un sommeil de plomb. Tu es seul avec lui, tu prends le sac, tu sors par le vestibule sans que le Little Page qui est dans la pièce d'à côté se doute de quelque chose. Tu me trouves, je t'accompagne, je te fais ouvrir les portes. Tu es dehors, tu es sauvé, nous sommes sauvés, car je ne tarde pas à te rejoindre. But it's a only solution. Mais, Helena, si par hasard il ne dort pas, s'il se réveille, je te dis que tu n'as rien de cela à craindre, absolument rien. Et même s'il se réveille, il est toujours quelque temps dans une demi-somnolence. Tu peux toujours lui dire que ton frère, le pasteur Duke, et pour quelques jours encore à Édimbourg, et qu'il t'a envoyé pendant ce temps le remplacer à Oak. Il ne connaît pas ce frère. Enfin, tu lui diras n'importe quoi, tu ne t'attarderas pas. Il ne te retiendra pas. Il n'a rien à dire au frère du pasteur. Tu t'en vas et les choses se passent correctement. Enfin, mon chéri, il faut bien risquer quelque chose pour sortir de cette horreur. Jamais je ne t'ai vu dans un état aussi pitoyable. Tu n'es plus un homme, Rudy. Come on, be yourself.
Pardonne-moi, Elena, oui. Je sais qu'il faut faire quelque chose, mais pourquoi ne pas attendre que le pasteur, le vrai pasteur, ne sorte du château avec le sac? Alors on lui prend le sac entre les Black Roots et Oak. Il y a là un coin de forêt tout à fait propice à cela, et tout sera dit. Voilà qui est encore beaucoup plus simple, ne trouves-tu pas?
Impossible, parce que le pasteur d'Oak ne rentrera pas, je le sais, avant 4 jours, et que, avant 4 jours, tout sera terminé.
Oh, c'est épouvantable, mais c'est épouvantable!
Tu te fais des idées, je t'assure. Une longue redingote de clergyman, un gilet boulotté par derrière, col retourné, un chapeau, une perruque blanche, moi à tes côtés qui te fais entrer, qui te fais sortir, Sir Archibald qui dort, je ne comprends pas ce que tu peux voir d'épouvantable là-dedans.
Elena, encore un mot. Es-tu tout à fait sûre que Sir Archibald sait absolument à quoi s'en tenir sur mon rôle?
Tu ne sais pas ce qu'il m'a dit sur le fameux Mr. Prim?
Il m'a dit que le rôle avait été tenu par Victor, le garçon coiffeur de Durin. Elena eut un sursaut.
Et tu l'as cru? Tu as cru qu'il était sincère en te disant cela?
Mais c'est Victor qui a trahi Durin.
Oh, ça a dû coûter cher, par exemple. C'est par Victor que Sir Archibald a su que c'était toi qui faisais figure de M. Prim à Derville.
Mon Dieu!
Eh bien, agiras-tu maintenant?
Oh, Elena, si je ne t'avais pas, que deviendrais-je? Oh, le dirige-moi, secours-moi.
Laisse-moi le faire, petit chéri darling. Tu verras la belle vie que nous nous referons tous les deux. Et quant à ce Victor, oh, j'ai comme une idée que son compte est bon à celui-là. Durin s'en chargera.
Chut, silence! Me souffla-t-elle tout à coup en me mettant une main sur la bouche. Elle sauta du lit, s'enveloppa rapidement d'un manteau, souleva une tenture et disparut par une petite porte qui donnait sur l'escalier de pierre de la grosse tour et descendait au caveau. Elle m'avait fait signe de ne pas bouger. Je restais soulevé sur la couche, en proie à de nouvelles transes. Au bout de 10 minutes, elle réapparut et se glissa auprès de moi. Elle était glacée.
« Oh, chérie, me souffla-t-elle, que nous prépare-t-il? Mais que nous prépare-t-il ?»
Elle, si brave, frissonnait, oui, et ce n'était pas seulement de froid.
C'est bien lui qui est allé rendre visite à la Banshee, et il est encore descendu ce soir. Personne n'est entré chez la Banshee depuis la mort de Sir Edward, personne.
Mais enfin, ma chérie, qu'y a-t-il de si terrible chez la Banshee?
Ce qu'il y a! Mais il n'y a que 3 personnes au monde qui le savent exactement, exactement, depuis la mort de la malheureuse Kate. Sir Archibald, Patrick et moi.
Mais qui est-ce, Kate? Et qu'est-ce que tout ceci a à faire avec notre histoire, à nous?
Ah, oh, tu vas voir, Rudy, tu vas voir. Je vais te dire un secret de famille, chérie. Tu sais bien le petit David, le dernier descendant des MacGregor. Eh bien, il n'a pas été dévoré par des loups. Ce fut une fable inventée par Sir Edward, le père d'Archibald, pour faire croire à sa mort. De fait, Sir Edward, qui voulait hériter de toute la fortune des Gregor, avait décidé la mort du petit David, mais sa femme, la femme de Sir Edward, qui était une Gregor, cette Elizabeth dont je t'ai parlé, réussit par ses supplications à obtenir qu'on laissa la vie à son frère. Et il fut enfermé jusqu'à sa mort, attaché avec des chaînes dans la chambre de la Dame Verte, dont personne n'approchait, dont nul n'osait approcher. Un paysan d'Oak fut enfermé dans le château avec sa fille Kate, qui était alors une enfant, pour veiller à ce qu'on n'approchât pas de la chambre où gémissait le malheureux et pour lui porter sa nourriture. Il vieillit ainsi dans le château. Mais la petite Kate eut pitié du prisonnier, elle l'aima et eut un enfant de lui. Sir Edward apprit la chose et fit élever l'enfant par la petite Kate dans la cellule du père. Et sitôt qu'il put les porter, le pauvre bébé eut des chaînes. Il grandit à son tour, et ils vieillirent ainsi en face l'un de l'autre, attachés au mur par des chaînes, le cou pris dans un carcan. Le père et le fils. Ce sont des choses que l'on n'invente pas en Écosse. Ce sont des choses tout à fait écossaises. Et le père mourut, et l'enfant, le dernier des Gregor, la dernière goutte du sang de Rob Roy, y est peut-être encore. Elle continua dans un souffle. Le gardien mourut et fut remplacé par Patrick en disant son secret à Sir Archibald, mais Kate ne mourut point sans me le dire à moi. Patrick, âme damnée de Sir Archibald, veille-t-il sur une ombre? N'est-il plus là que pour entretenir la flamme des cierges? Il n'y a pas bien longtemps que Kate est morte, et elle pensait que son enfant vivrait toujours. Eh bien maintenant, Sir Archibald descend dans ce coin de l'enfer. Crois-tu que c'est pour prier, pour le repos de l'âme de Gregor? Je vais te dire, moi, ce que je crois. Sir Archibald se prépare à rendre aux prisonniers la fortune des Gregor. Dans la haine de son frère Philippe, il va tout avouer au clergyman et lui donner tout pouvoir pour la restitution. En ce qui me concerne, moi, il ne serait être question de ma ruine. Mais il me prépare autre chose. Il nous prépare à tous les trois autre chose qui arrivera avant sa mort. Quelque chose qui ne tardera pas, quelque chose qui fera que j'aurai disparu à mon tour. Mais pour disparaître, mon chéri, je n'attendrai pas la permission de Sir Archibald. Comprends-tu maintenant qu'il faut fuir? Fuir avec les bijoux, mes bijoux, c'est tout ce qui me reste. Ton amour et mes bijoux.
Oui, nous fuirons, mon Helena, loin, loin, mais crois-tu donc qu'il nous prépare?
Oh, quelque chose de très simple, de tout à fait dans l'ordre. Je suis descendu derrière lui, et j'ai entendu le bruit de ses pas et ceux de Patrick. J'étais resté au coin de l'escalier. Il est entré dans la chambre de la Banshee et Patrick ramassa des chaînes avant d'y pénétrer des chaînes qu'il avait déjà apportées là. Tu comprends? Si l'héritier des Grégor retrouve son rang, il n'y aura plus personne dans la chambre de la Banshee. Eh bien, cela n'est pas dans l'ordre. Tout sera dans l'ordre quand nous y serons attachés tous les deux, et nous nous regarderons mourir, comme le pauvre petit Grégor regardait mourir son père David. Oh, je connais l'Archibald, je l'ai vu à l'œuvre aux Indes. Il trouvera bien pour passer le temps quelques petits suppléments de torture, histoire de sauver nos âmes. Quant à Durin, qu'est-ce qu'il va lui faire?
Mais je m'en fous de Durin. Tout ce que tu me racontes est atroce.
J'y pense, interrompit-elle en se redressant. Le clergyman. Il fait peut-être venir le clergyman pour les dernières prières, avant de nous murer.
Oh non, non, parle plus, ne parle plus. Elle se tut. Nous étions comme ivres de terreur. Elle nous pénétrait, elle nous brûlait. Et soudain, nous nous ruâmes dans les bras l'un de l'autre pour y échapper. Mais nos haleines nous consumaient. Ce fut un désordre, une démence, une torture, une volupté affreuse et désespérée. Unis dans le destin qui nous menaçait et dans la volonté farouche de nous distraire, nous épuisions la douleur d'aimer au fond de cette géhenne afin de risquer le suprême élan où nous allions peut-être briser nos os. Quand je sortis de ses bras, je n'étais plus qu'un automate qu'elle manœuvra comme il lui plut. Et elle me prouva dans la journée qui suivit, journée qui devait avoir une influence terrible sur toutes les heures d'une existence qui ne connaîtrait plus le repos, qu'une affaire intelligemment conçue, bien préparée, ne demandait pour être réalisée qu'un minimum d'efforts dans un minimum de risques, et mon Dieu, un peu de sang-froid. Les choses se passèrent comme me les avaient annoncées. Le télégramme de Paris vint me toucher à l'heure dite. Je m'excusai en quelques lignes auprès de Sir Archibald, dont je ne voulais pas troubler le repos, et Helena me conduisit elle-même en auto à Stirling. Toujours accompagné par elle, je pris mon billet et nous passâmes sur le quai en attendant le rapide pour Londres. Il faisait alors nuit noire. Au bout du quai, Helena me fit pousser un portillon qui donnait sur un passage à niveau, et nous nous trouvâmes hors de la gare. Puis ce fut le retour dans l'auto. Elle me passa elle-même le déguisement dont elle s'était munie, et elle eut au fait de me camoufler. Je fus clergyman des pieds à la tête. Sous ma couronne de cheveux blancs, je n'avais plus qu'une pensée, réussir. Au bord du gouffre où j'avais glissé, je n'avais plus pour tout espoir de salut qu'un redressement qui me permettrait de fuir au plus loin ces bords dangereux. Devais-je fuir sans le sou ou avec des millions? La question ne se posait plus. Tout de même, quand la porte des Black Rooks se rouvrit devant nous, cette affreuse crispation de la gorge, cette sensation d'étouffement que j'avais déjà ressenti au moment de l'action, ne me fut pas épargnée. Au fond, je suis très nerveux, mais cela ne dura qu'un instant. Helena me conduisit à la porte de l'appartement de Sir Archibald et frappa doucement. Le Little Page vint ouvrir un doigt sur la bouche. Sa seigneurie dormait. L'enfant ne parut nullement étonné de me voir, me pria d'entrer, tandis qu'il refermait la porte, après d'honnêtes excuses, sur le nez de Lady Helena, laquelle ne protesta point. Une minute après, j'étais seul en face du malade, qui était réellement plongé dans le plus profond sommeil. Bobby avait été exactement instruit de ce qu'il devait faire. Il m'avait prié d'attendre le réveil de sa seigneurie, qui m'avait demandé plusieurs fois dans la journée. La chambre était dans une pénombre propice, une veilleuse sur une table, la potion, et ce vieillard sous l'influence du narcotique. Je fis plusieurs mouvements pour m'assurer que je pouvais y aller. Rien ne bougea. Alors je n'hésitais plus. Je glissai ma main sous le traversin et je rencontrai tout de suite le sac
que je tirai à moi fort précautionneusement. Je l'enfouis aussitôt dans une des vastes poches de ma redingote, et, sans un coup d'œil en arrière, je regagnai la porte du vestibule dont je n'eus qu'à tirer les verrous, puis je refermai. La porte de la chambre d'Héléna était entr'ouverte. Elle était là. Je courus m'enfermer avec elle. Je lui passai le sac. Cette fois, j'espérais bien que nous n'aurions plus la douloureuse surprise que nous avait réservée l'ouverture du coffret. En vérité, les bijoux et le fameux collier étaient bien là. Héléna renversa le tout sur son lit. Un lourd papier, une double feuille pliée en quatre, glissa du sac avec toute cette joaillerie. « Qu'est-ce que je t'avais dit, Rudy ?» Je vis combien son trouble était grand en le lisant. Elle ne le dissimulait pas, du reste. « Ah, il n'était que temps, darling !» Assurément, il n'était que temps. Et sans me montrer le papier, elle le jeta aux flammes de la cheminée. Il se tordit sur les branches embrasées. Elle ne releva la tête que lorsqu'il fut tout à fait consumé, puis du bout des pincettes, elle emmêla les cendres aux cendres du foyer. Enfin, elle me dit, « Alors, Rudy, je crois que nous sommes sauvés. » Et après avoir ramassé les bijoux, le collier, dans le sac qu'elle dissimula soigneusement dans une armoire, elle me prit la tête et me baisa les lèvres avec toute la force d'un amour reconnaissant. Cependant, le moment n'était point aux expansions. Elle comprit que je ne demandais qu'à achever au plus tôt le programme. « Oh oui, Rudy, ne nous attardons pas. » Et nous retraversâmes le château dans une attitude de recueillement tout à fait propre à inspirer le respect. Pas de lumière, un ou deux domestiques qui s'inclinèrent. Et ainsi, elle me fit ouvrir la porte. « Vous ne voulez pas qu'on vous reconduise, mon révérend ?» Je secouai la tête. Hook était si près. Tout ceci avait été bien réglé entre nous. En arrivant au château, elle avait fait en sorte que le portier crut qu'elle venait de me rencontrer à un demi-mile des Black Roots et qu'elle m'avait fait ainsi monter dans sa voiture. Enfin, elle me quittait sur le seuil de sa tour. De cette façon, elle pouvait faire croire sans difficulté qu'elle avait été trompée comme tout le monde sur la personnalité du faux clergyman auquel on ne manquerait point naturellement dès le lendemain d'attribuer le larcin. Je vous dis que tout était merveilleusement combiné par la très intelligente Héléna. Moi, avec ma lanterne, car le faux pasteur était venu avec une lanterne, je continuai ma route. Mais laissant Hook, je pris, suivant ses indications précédentes, une direction opposée. Et une heure plus tard, j'arrivai dans un petit bourg que les touristes avaient mis à la mode et qui avait son garage. Je n'eus aucune explication à donner. Je m'étais débarrassé de mon attirail de clergyman. Ce fut le patron lui-même qui me conduisit à Édimbourg. D'Édimbourg, je me fis conduire après avoir changé une fois encore de costume, et, mon Dieu, un peu de tête. Oh, je commence à me mettre sérieusement au camouflage. Je me fis conduire à Dundee. Là, je pris un bateau pour la Hollande, où je devais attendre à Rotterdam Lady Scarlett. Elle m'avait promis qu'elle m'aurait rejoint dans les 48 heures. La première chose que je fis en arrivant en Hollande fut de me jeter sur les journaux anglais. Je faillis avoir, comme on dit, un coup de sang en tombant sur ce titre. Assassinat de Sir Archibald Scarlett, suivi de ce sous-titre. L'assassin avait pris l'habit d'un clergyman. Enfin, dernier sous-titre, L'assassin se serait enfui avec 30 millions de bijoux.
Ah, je n'avais pas besoin de lire l'article. Je l'aurais fait. Et je pouvais l'attendre, Lady Scarlett. Elle n'avait plus besoin de fuir, ni d'urine. Ils étaient tout à fait tranquilles maintenant, dans leur château des Black Rooks. Personne ne viendrait les y déranger. Et Durin pourrait enfin goûter avec Elena, dans la paix et au sein des richesses, la récompense de mes travaux d'Hercule. Quelle belle fin de carrière et quel coup de maître, comme un dieu à la vie de Forban. M'avoir fait voler les bijoux dans la chambre du mari, m'avoir fait fuir, avoir étranglé le mari derrière moi et faire ainsi retomber sur moi du même coup, et le vol, et l'assassinat. Ah, ben Jove! Ils s'entendaient bien tous les deux, ce monstre et cette louve. Et pour couronner l'aventure, Elena avait trouvé encore le moyen de me faire partir les mains vides et au trot. Il n'y avait plus qu'à s'incliner, c'était du grand art. Comme aussi du grand art, cette atmosphère de terreur dont elle avait su m'envelopper, ces histoires de vengeance héréditaire, ces caveaux habités par des spectres, cette cellule que l'on préparait et qui verrait pourrir nos vieux os. Oh, elle m'avait fait bien marcher. Je cours encore. Je restais 10 jours en Hollande à me cacher. C'était bien inutile. Je n'avais à craindre que leur dénonciation, et ils avaient autant d'intérêt à se taire que moi-même. Ils m'avaient scellé la bouche d'une cire brûlante et toute rouge, oui, toute rouge. Cette fois, je ne fus entrepris d'aucune rage. J'étais comme hébété, stupide de désespoir et d'accablement. Je restais des heures entières, l'œil fixé sur les journaux qui donnaient encore de temps à autre quelques lignes à l'affaire des Black Rooks. On avait retrouvé dans un petit étang la défroque du clergyman, mais le clergyman lui-même restait introuvable. L'inspecteur Petit-Jean avait fait le voyage. Il n'avait pas eu de peine à démontrer que c'était encore ce damné Mr. Flow qui avait fait le coup. Le ruffian avait été plus heureux qu'à Deauville, mais ça lui avait coûté cher, un assassinat. On savait qu'il n'aimait pas ça, mais enfin il avait prouvé que l'occasion s'offrant, il ne savait rien se refuser. Le journal d'Édimbourg avait publié un article tout à fait sensationnel sur la grande douleur de Lady Scarlett. Ses amis l'avaient trouvée inconsolable. Elle se répandait en louanges sur le défunt. Celui-ci, du reste, était pleuré de tous ses domestiques. Le pauvre Durin, qui devait tant à la générosité de son maître, lorsqu'on lui avait fait la mauvaise plaisanterie de le mettre dans la peau de Mr. Flow, semblait devenu complètement idiot. Encore une belle intelligence qui sombrait dans le plus affreux désespoir. Le dernier crime de Mr. Flow était venu encore attester l'innocence de ce faible d'esprit, puisque Durin n'avait pas quitté son service au château, cependant que le clergyman assassin y entrait et en ressortait avec cette audace avec laquelle l'homme au sans-visage s'est créé dans le monde entier une réputation inattaquable. Durin prit congé et nul ne sut ce qu'il était devenu, si l'on veut bien accepter celui qui écrit ces lignes. J'avais repris ma place au palais, ma pauvre petite place. Quelques mois plus tard, j'appris par le courrier mondain d'un journal de Paris, qui avait osé risquer l'indiscrétion, que Lady Scarlett, dont le deuil n'avait pas encore pris fin, s'était fiancé dans l'intimité à un gentleman d'origine écossaise, venu du Canada, tout exprès pour l'épouser, après avoir vu sa photo publiée dans un magazine, et ce fiancé s'appelait Sir Douglas Sherfield. Or, moi, maître Antonin Rose,
Je sais qui est ce Douglas. Ah, Helena, Helena, tu l'as retrouvé, ton Doug et ton collier. Mais prends garde à certains colliers dont ce cher Doug pourrait te faire cadeau certaines nuits où les doigts de Douglas caresseraient trop étroitement ton cou nu, trop nu, trop nu. Helena, prends garde. Ne vois-tu pas au doigt de Doug un collier qui a déjà servi? Ô veuve d'Archibald, moi aussi j'ai connu tes nuits, Helena, tes nuits de joie et de terreur, tes nuits de mensonges. Mensonges, juste Dieu, était-ce bien des nuits de mensonges, ces heures noires, ces heures ardentes, où tu gémissais sur mon épaule ta haine de Durin? Non, non, je ne veux plus penser à cela. Mais cependant, pour être sincère, pour être tout à fait sincère, il y a des moments de mes nuits actuelles où je me réveille pour crier. Et si ce n'était pas des mensonges? S'il n'y avait à Blackroots qu'une prisonnière de plus, la prisonnière de Durin, l'éternelle victime de Durin, et si elle m'appelait dans ses nuits rouges, rouges du sang d'Archibald, si elle clamait vers moi, grand Dieu, c'est peut-être sa voix que j'entends quand je me réveille avec ce mot qui peuple mes ténèbres sans les éclaircir, mensonge. Seul, plus seul que jamais, cette année s'est écoulée pour le pauvre maître Antonin Rose, seul au palais, seul dans son pauvre cabinet de la rue des Bernardins. Les deux charmantes sœurs, pourquoi vous en parlez? Elles me sont, je vous assure, devenues tout à fait indifférentes, mais je vous en parle parce que j'ai reçu la visite de Clotilde hier. Je vous disais donc que les deux charmantes sœurs ont déménagé pour se rapprocher du grand établissement de crédit dans lequel est entrée la doctoresse en droit. Je n'entends plus dactylographier pour la rue Henner de l'autre côté du mur. Tant mieux, j'ai d'autres bruits dans la tête. Mais parlons de la visite de Clotilde. Les vacances sont proches, me dit-elle. Nous reverrons-nous cette année dans votre villa de Lyon-sur-Mer? Vous savez que votre couvert y sera toujours mis. Je remerciais, ni oui ni non, est-ce que je sais? Ça va les affaires? Oh, ni plus ni moins. Oh, mademoiselle Clotilde, je m'ennuie. Mais venez avec nous, je vous donnerai des leçons de droit financier. Oh, je l'ai laissée partir. Elle m'ennuie, celle-là, avec son droit financier. Elle est bien charmante tout de même. Et elles sont arrivées, les vacances, et me revoilà au même point que l'an dernier. Et dans mes dossiers d'office, je ne retrouve plus un Durin. Tout de même, je ne vais pas le regretter. Ah, ces couloirs déserts, ces salles abandonnées, ces gagistes qui vous regardent passer avec un mauvais sourire pour votre misère. Il y a des dates qui comptent pour moi. L'an dernier, ce jour-là, tu te trouvais pour la première fois en face de Durin. Tu te souviens la nuit au bord de la mer, sur le sable noir et chaud? Et cette nuit où tu gagnais 1 million, 1 million? Et le souper dans l'hôtel Boieldieu, le litre de rouge sur la table de la cuisine, après l'affaire? Et le coup du départ de l'hôtel de Paris-Plage? Mon Dieu, avons-nous ri! Et Trompette, et Georgette, ah! Tais-toi, tais-toi, mon cœur! Là-bas, un garde me fait signe. Tâchons de gagner notre dîner. Et puis non, zut, je n'ai pas le caractère ouvrier aujourd'hui. Renvoi après vacation, renvoi après vacation. Un télégramme pour moi. Ah, un télégramme de Deauville. Mon cœur bat, mon cœur bat. Oh, Elena, oh, Elena.
Oh, faisons un tour le long de la côte. Pensez à nous, Clotilde.
Je la déteste, cette Clotilde.
C'est ton appel que j'attends, Elena, ton appel. Ton appel qui m'apprendra peut-être enfin la vérité, toute la vérité. Viendra-t-il? N'ai-je plus rien à apprendre ?